Chapitre 23.
Le repère, c'est l'horloge. On ne la voit que sur les plans plus larges. Regardez, là, en haut à droite. On peut estimer qu'il est soit 8h, soit 20h quand le film commence. Pour ma part, je parierais plutôt sur 20h. Henry Cobb était allé rechercher le fichier dans une succession de dossiers cachés. Il l'avait lancé et fait un arrêt sur image dans la foulée. Sur l'écran, une vaste salle au sol protégé par une bâche en plastique transparente immaculée, dont le mur du fond était en vieille pierre et en partie recouvert par le dessin d'un labyrinthe, du genre de celui qu'elle avait vu à Atismons. Les plafonds avaient l'air d'être très hauts. Au centre, une énorme carcasse de bœuf pendait au bout d'une corde accrochée à une poutre, ouverte en deux comme dans les abattoirs. Devant, une femme vêtue d'une robe bleue à bretelles, pieds nus, était attachée par les poignets à la même poutre que l'immense pièce de viande. On devinait ses longs cheveux bruns, mais pas la couleur de ses yeux. Elle n'avait pas peur, semblait ailleurs, totalement inexpressive, droguée. Elle devait avoir à peine 20 ans. Malgré les rayures sur la pellicule, c'est l'une des rares images où l'on distingue à peu près son visage, fit l'étudiant. Mais ce plan dure 1/5 de seconde et était noyé au milieu du reste. Il tira une chaise et s'installa juste à côté de Lizine, la bobine en main. Il ne s'agit pas exactement de 8 mm, mais de Super 8. La définition est meilleure, on filme à 24 images par seconde et non 16. Et bien que ce ne soit pas le cas ici, la bande peut même supporter le son. Il en déroula un bout qui l'orienta vers la lumière. Je l'ai scruté en long et en large avant de la numériser. Mais à cause du montage, il est impossible de connaître les caractéristiques de la pellicule ni où elle a été fabriquée. Rien n'a été laissé pour l'identification. Par contre, ce genre de matériel s'abîmant vite et, vu le bon état général, j'en ai déduit que le film était récent. Quelques années, tout au plus. Et puisqu'aujourd'hui on n'utilise plus du tout le Super 8, j'en ai conclu qu'on avait affaire à un nostalgique des vieux formats pour qui le grain est important. Et ces rayures? On les retrouve quasiment partout. Selon moi, elles sont volontaires. Pourquoi quelqu'un aurait fait ça? À mon avis, pour imprimer la violence du contenu sur le support lui-même. Comme pour une mise en abîme. Rien qu'en regardant cette bobine, ses découpes, ses assemblages, on sait qu'on a affaire à quelque chose de pas normal. Cette pellicule est comme une blessure. Un objet est martyrisé par son propriétaire. Vous n'avez pas ressenti ça quand vous avez ouvert la boîte la première fois?
Si, un peu.
Le film dure exactement 5 minutes et 34 secondes, mais il comprend 610 plans mélangés et recollés bout à bout. 610, vous vous rendez compte? Certains longs métrages d'1h30 en contiennent à peine 100. Il la fixa un instant pour s'assurer qu'elle mesurait la portée de ses propos, puis continua. Un tel nombre de coupes! Je n'avais jamais vu ça. Je sais pas, l'état de cette bobine, indépendamment de son contenu, me donne le sentiment d'un type à la fois précis et complètement malade.
Il semblerait qu'il soit pile dans le sujet qui intéressait mon usurpatrice, l'expression de la violence à travers une forme d'art.
Exactement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette pellicule l'a branchée à double titre. Et il y a un autre truc qui me revient maintenant que j'y pense. Lors de notre rencontre, Lizine a évoqué des tableaux exposés dans une galerie. Elle était tombée dessus lors de ses recherches quelques mois avant que je la recontacte. Selon elle, ses œuvres avaient un rapport évident avec le montage, à cause de deux motifs qu'ils avaient en commun, le labyrinthe et l'homme à la tête de taureau. Lizine lui montra les photos prises à Atismons.
Ce genre de tableau?
Elle m'en a juste parlé, je les ai pas vus, mais a priori, ça colle.
Elle vous a donné le nom de l'artiste? Ariane, ça vous dit quelque chose?
Non.
Dans quelle galerie elle les avait découverts?
Il sembla fouiller dans sa mémoire avant de renoncer.
Je m'en souviens pas. Désolé.
Malgré sa déception, qu'elle ne sut cacher, Lizine l'invita à reprendre ses explications sur le film.
Les scènes que nous allons voir s'étalent sur une durée de 13 heures. Une bobine permet de filmer environ 1 heure. Ça signifie que cette bande est la compilation d'au moins 12 de bobines qui ont été nécessaires pour filmer l'intégralité de ce que j'appellerais la soirée.
Lizine s'abstint de tout commentaire.
Tout cela lui paraissait tellement irréel. 13 heures compressées en 5 minutes. 13 heures d'un interminable supplice, sans doute, pour cette femme qui avait subi la folie d'une bande de tarés. Henry Cobb appuya de nouveau sur lecture, puis pause dans la foulée. Le plan suivant montrait l'entrée de la pièce, où une dizaine d'individus, hommes et femmes, se tenaient debout, immobiles, répartis de part et d'autre d'une grosse porte en bois sculpté. Tous portaient des tenues chics, costumes et robes, et un masque identique, une tête de porc affreuse qui leur donnait un air à la fois grotesque et effrayant. Une sorte de moulage en latex qu'on enfilait comme une cagoule, et qui dissimulait aussi le crâne, garantissant l'anonymat le plus complet. Henry Cobb avança encore et fit pause plus loin. Une longue table recouverte de velours rouge meublait la salle. Dessus étaient disposés de nombreux items, gants de boxe, bombes désodorisantes, extincteurs, plumeaux, mixeurs, dés à coudre, câbles électriques, des coupes pleines de liquides colorés, rouge, noir, gris.
C'est dingue, je n'avais pas vu tous ces objets, souligna Lizine.
Les plans sont beaucoup trop courts, le cerveau ne peut pas tout imprimer. Mais en réalité, vous les avez bien vus, et quand on remet tout dans le bon sens, ça donne ça. Et on comprend parfaitement ce qui s'est joué pendant cette nuit sans fin. À partir de maintenant, je vais laisser défiler. J'ai indiqué ici en incrustation l'heure réelle pour donner une idée du temps qui s'écoule. Enfin, à peu près.
Il lança la lecture. Les séquences étaient toujours aussi hachées, alternant zoom, mouvements oscillatoires ou panoramiques. Mais l'ordre chronologique permettait de combler les ellipses et de suivre dans les grandes lignes le déroulé de la soirée. L'homme à l'énorme tête de taureau franchit le seuil de la porte et apparut entre les convives, costume 3 pièces blanc. Il se rapprocha de la fille, fit courir ses doigts sur sa nuque. Son museau noir la renifla, l'observa, ses gros yeux globuleux de bovidé brillaient comme des boules de verre. Il sembla s'adresser aux spectateurs, agitant les bras. Certains le rejoignirent. L'un poussa la carcasse avec son pied pour la faire se balancer. D'autres allèrent prendre une coupe de champagne sur le buffet. 1 heure déjà était passée. À 22h10, un plan montrait une longue et fine main s'emparer d'une brosse à cheveux sur la table habillée de velours rouge. Une femme, elle aussi affublée d'un masque grotesque, démêla avec délicatesse la chevelure de la fille attachée, qui ne protestait pas. Sa tête oscillait.
« Elle est complètement stone »,
pensa Lizine dans un frisson. Les images, les cadrages, les masques la rendaient nerveuse. Toute cette mise en scène était tellement malsaine. Après un bon moment, un homme, cette fois, lui chatouilla le dessous des bras avec un plumeau. La jeune femme se mit à rire. Puis un porc en livrée arriva, remplit les coupes de champagne et présenta sur un plateau des écuelles de poudre blanche. Les autres porcs burent et s'éloignèrent dans un coin pour sniffer. Lizine sentait que les esprits s'échauffaient. Derrière les masques, on imaginait sans peine les regards lubriques. Mais qui étaient ces gens? Aux alentours de minuit, quelqu'un baissa la bretelle gauche de la robe et dévoila un sein. Avec un couteau, quelqu'un d'autre, plan sur un homme à qui il manquait l'index, tailla une pièce de viande dans la carcasse et barbouilla le visage de la victime avec. Cette dernière parut retrouver ses esprits. Elle se mit à gesticuler, cria sans doute, puisque le même individu lui ôta sa culotte et la lui enfourna dans la bouche. Un geste qui annonçait le début d'une nuit de dépravation et d'horreur absolue. Avant 2 heures, la fille était nue, son corps décoré avec une guirlande et maculé de projections de peinture. Progressivement, chacun se mêla à la danse, encouragé par cette espèce de minotaure qui était à l'évidence le maître de cérémonie. L'un se mit torse nu, enfila un gant de boxe et commença à frapper la carcasse devant quelques spectateurs déchaînés. Une inconnue s'approcha, porta les doigts au sexe de la fille, puis la masturba sans ménagement. Lizine se tortilla sur sa chaise et jeta un coup d'œil à Cobb, qui serrait son poing contre ses lèvres.
Elle avait envie de fuir, de retourner à Rouen et d'oublier ce cauchemar. Mais l'étudiant avait raison. Il était trop tard. Elle assista alors à une monstrueuse bacchanale, une scène orgiaque et meurtrière indescriptible. Ces individus, bien habillés au départ, finirent presque tous nus, baignant dans un magma ignoble de fluide. Le Minotaure mixait des bouts de barbac qu'il pulvérisait soudain à l'aide d'un ventilateur puissant sur les corps enlacés en plein coït, à deux, à trois, à six. Puis il ajoutait des plumes qui venaient se coller aux chairs. Plus tard, il s'accrocha à la pièce de bœuf et s'y balança longuement, basculant sa lourde tête de taureau à la renverse. Son costume jadis blanc ressemblait à un tablier de boucher. Après avoir subi toutes sortes d'assauts, avoir été humilié, tabassé, brisé, la victime avait été détachée et livrée à ses animaux. Tous les objets de la table furent utilisés, même le tournevis et la brosse à poils de fer. La caméra n'en perdait pas une miette, avançant et reculant dans un balai qui donnait la nausée. La fille gisait, à moitié consciente, les cheveux plaqués sur le visage, les gencives en sang. À 9 heures du matin, le Minotaure, dont les vêtements étaient désormais rouges, l'attacha avec du câble à la carcasse. Puis, devant l'assemblée de porcs souillés, certains couchés au sol immobiles, essoufflés, d'autres debout, il lui trancha la gorge. Comme ça, dans un geste froid, mécanique. Le plan sur le sang jaillissant de l'entaille fut le dernier du film.
« Ils l'ont tué »,
murmura-t-il d'une voix blanche.
« Voilà ce qu'ils ont fait. Ils l'ont martyrisé et ils l'ont tué. »
Il resta là, figé, respirant lourdement. Une respiration pleine de regrets et de colère.
Ils ont immortalisé toutes ces horreurs, et moi j'ai gardé ça pour moi. Je sais que j'aurais dû aller voir les flics. Peut-être qu'ils auraient pu remonter jusqu'à cet arrêt.
Lizine mit du temps à se remettre de ce qu'elle venait de vivre. Un meurtre barbare s'était déroulé sous ses yeux, précédé d'une interminable descente aux enfers. Même si elle ne doutait pas de ce qu'elle avait vu, elle se devait de poser la question.
Une chance que ce soit un faux ?
Sans déconner, vous y croyez, vous ? J'ai décortiqué la séquence où on lui tranche la gorge. Elle dure plus de 2 secondes et il n'y a aucune coupe sur la pellicule à cet endroit. Une cinquantaine d'images qui se suivent donc en temps réel.
Après un long silence, elle demanda.
Vous avez fait des recherches ? Sur le style du film ? Sur le genre de réalisateur capable de tourner un truc pareil ?
Il secoua la tête.
Non. Je suis désolée, c'est moche, mais je voulais pas aller plus loin, je voulais oublier. Et puis j'avais plus aucune nouvelle de Lizine, alors j'ai eu peur. Je ne dormais plus. Je n'arrivais plus à me concentrer. Cette histoire m'obsédait et je flippais dès que je mettais le nez dehors. Cette bande, c'était une malédiction dont je devais me débarrasser. Je suis en plein dans mes études, il faut que je pense à mon avenir, vous comprenez ?
Lizine acquiesça. Cobb rangea la bobine dans son boîtier et la lui rendit.
Ce film est certainement la seule preuve de ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'ils ont besoin de le retrouver. Et il est entre vos mains désormais. Je ne vous en voudrais pas si vous allez voir la police avec et que vous leur racontez tout, surtout si vous sentez que votre vie est en danger. Je suis prêt à assumer.
Et si je ne vais pas voir la police, quelle piste suivre ?
La jeune femme lut un réel soulagement dans les yeux de son interlocuteur. Le fait qu'elle envisage d'autres options le rassurait visiblement. Il pivota alors de nouveau vers son ordinateur et fit une copie de la vidéo sur une clé USB avant de la lui remettre.
« Gardez-la très précieusement. Comptez sur moi. »
Sinon, selon moi, la piste la plus simple serait celle de la fille aux cheveux violets. Le type qui était avec elle disait avoir déniché la bobine dans le grenier de ses parents. Grâce à eux, vous vous rapprocherez à coup sûr des origines du film. Je peux vous imprimer sa photo, ce sera plus facile qu'avec votre portable. À mon avis, elle est camée jusqu'aux os et elle squatte quelque part dans les baraquements de la colline du Crac. Mais faites gaffe si vous allez là-bas, ça craint vraiment.
Sans même attendre qu'elle lui réponde, il alluma son imprimante,
glissa du papier dedans, fit quelques manipulations et, une poignée de secondes plus tard, l'appareil délivra le portrait de la fille en question. Après le lui avoir confié, Henry Cobb hésita, puis ajouta.
« Il y a un dernier truc que je peux vous donner. Une autre photo. »
Il retourna dans le dossier caché, cliqua droit sur un fichier image et lança une nouvelle impression.
J'ai pris le meilleur plan de toute la pellicule, celui où on voit ses traits le plus distinctement, et je l'ai retravaillé avec divers filtres d'amélioration, suppression du bruit, accroissement des contrastes.
Il avait à peine terminé ses explications que Lizine observait déjà, avec un pincement au cœur, le visage de la victime. Elle avait les yeux foncés, sans doute marrons, un nez bien proportionné, des cheveux bruns ondulés. Une trace de peinture jaune sur la joue droite, une autre bleue au menton. Son regard était envahi par la peur, sa bouche déformée par la culotte qu'on lui avait fourrée à l'intérieur. À ce moment-là, elle devait avoir pleinement conscience du sort qui l'attendait. La voix de Cobb, lointaine, le murmure des autres élèves dans le couloir. Quand Lizine parvint à s'extirper de ses pensées, l'étudiant lui tendait une pochette à élastique verte. Elle rangea les clichés dedans et se releva. Dehors, il faisait déjà noir.
« Soyez très prudente »,
insista-t-il en enfonçant les mains dans ses poches, comme s'il avait froid.
« Encore une fois, je suis navrée. Je regrette tout ça et... Enfin, si vous avez besoin d'aide, vous avez mon numéro. Ne vous inquiétez pas. » Vous m'avez déjà beaucoup aidé. Si vous voulez, je vous tiendrai au courant. »
Il hocha doucement la tête. Lizine le salua et regagna sa voiture. Dès qu'elle fut à l'abri, elle ne put s'empêcher de rouvrir la pochette, puis de scruter l'innocente beauté de celle que des porcs, dans tous les sens du terme, avaient mise à mort lors d'une longue nuit de 13 heures qui dépassait l'entendement. En vis-à-vis, elle plaça l'autre tirage, sa porte d'entrée vers la prochaine étape. Elle disposait encore de 4 jours avant de reprendre le boulot au courrier normand. 4 jours pour avancer aussi près que possible de la vérité et éviter de ruminer sur ce qui était en train de se jouer dans son cerveau.